Pour ce créneau libre sur Radio Barthas, on vous propose l'examen final fait par la promo GENA de l'Institut Agro ici à Florac. On écoute ça tout de suite.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas. Nous sommes les étudiants en licence professionnelle GENA de l'Institut SupAgro. Dans le cadre de nos études, nous avons travaillé sur la notion de circuit court. Un petit rappel peut-être sur le circuit court. Ce sont des ventes de produits en direct avec un minimum d'intermédiaires. Donc cela veut dire de la vente directe des producteurs aux consommateurs ou bien avec au maximum un intermédiaire. Nous sommes donc partis en voyage d'études afin de récupérer des témoignages d'acteurs du territoire de la Lozère, du Cantal et du Lot. Lors de ce voyage, nous avons été hébergés à la ferme de Martory, située dans le Cantal, ferme familiale proposant des gîtes d'accueil. Cette ferme de vaches produit des vaches allaitantes, des pommes, du cidre, du vinaigre, ainsi que de la volaille. Nous avons commencé par rencontrer le moulin de la Borie, situé sur le Causse, puis la coopérative ferme de Figeac, une coopérative d'approvisionnement. Puis nous avons ensuite rencontré l'association de la Maison de la Châtaigne, située dans le village de Morjou. Et enfin, nous avons fini par la coopérative de l'Aïeul.
Nous sommes allés à la découverte de systèmes de valorisation de produits locaux et également d'organisation collective. Derrière l'organisation collective, nous avons découvert les systèmes de coopératives. Donc une coopérative, c'est un organisme qui permet de regrouper des producteurs, la vente et la valorisation de produits communs, tels que la coopérative de l'Aïeul et la coopérative de ferme de Figeac. Et nous avons ensuite découvert le système des associations qui permet également de valoriser des produits en collectivité, tels que la maison de la Châtaigne qui regroupe les producteurs de farine de châtaigne. Le développement de structures collectives permet de créer du lien et de maintenir des traditions de production entre producteurs et consommateurs. Comme on a pu le voir avec le développement de coopératives agricoles sur le territoire de la Lozère, du Lot et du Cantal.
Pendant notre voyage, on s'est posé plusieurs questions. Donc déjà, on s'est intéressé un petit peu aux structures. On s'est demandé si les différents types d'organisations dans les structures, que ce soit par exemple une coopérative ou alors une association, ça allait créer des liens différents, notamment entre les producteurs. Est-ce qu'il y a une solidarité forte qui se crée, une identité commune qui est créée par cette production ? On s'est beaucoup posé la question de la tradition, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant par les filières. Et on s'est posé la question donc des liens avec les consommateurs. Est-ce que les consommateurs se reconnaissent dans cette tradition? Et est-ce qu'ils pensent que leur territoire est représenté par ces productions-là? Et il y avait aussi la question de la modernité par rapport à la tradition. Donc quand on dit modernité, ça va être comment on produit. On sait qu'il y a beaucoup plus de machines aujourd'hui, des normes différentes. Et donc on voulait voir quels liens les producteurs arrivaient quand même à faire entre un savoir-faire traditionnel et une production traditionnelle et des outils de production modernes. Et puis ensuite, on s'est posé la question des enjeux environnementaux. Donc on a demandé qu'est-ce que les différentes structures mettaient en place pour réfléchir aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, comme le changement climatique en général. Est-ce qu'ils mettent en place des outils ou des chartes qui sont contraignantes, et quels effets ça pouvait avoir sur un territoire d'avoir une production particulière avec une charte? Est-ce que c'était favorable ou non au maintien de la biodiversité sur un territoire? Et du coup, on va vous laisser avec le groupe suivant qui va vous faire une présentation des structures collectives sur les COP notamment.
S'organiser collectivement pour mieux faire face aux difficultés, c'est ce qu'ont fait des agriculteurs des confins du Lot et du Cantal.
Tous les liberdiers qui vont sur la montagne, tous les liberdiers, un vissu messager, qui a crié, mettez-vous en campagne, qui a crié, le fieu de Dieu est là. Cambo mi fai ma butto cielo la cambo mi fai ma.
Après la Seconde Guerre mondiale et la modernisation de l'agriculture européenne, la coopération agricole s'est développée en France. Celle-ci est protéiforme, allant des grandes coopératives céréalières et viticoles jusqu'aux petites coopératives laitières et fromagères de montagne.
La coopérative Ferme de Figeac se trouve dans le Lot et compte 650 agriculteurs adhérents sur 80 000 hectares. Celle-ci s'est diversifiée notamment dans les énergies renouvelables avec la pose de panneaux photovoltaïques, la méthanisation et le bois. La coop cherche par son organisation collective à valoriser les ressources locales et à créer de la valeur sur son territoire à travers divers produits faits par ses adhérents. On peut retrouver le fromage connu, le rocamadour, la bière artisanale ou encore de la viande bovine. Ces produits sont commercialisés avec la marque Sens du Terroir dans les anciennes gammes vertes qui appartiennent aux coopératives agricoles. La ferme de Figeac développe les circuits courts et cherche à prendre soin de son territoire en travaillant avec les agriculteurs locaux. Elle souhaite également recréer du lien entre ses agriculteurs adhérents et les consommateurs, notamment à travers divers événements qui peuvent animer.
Nous venons de voir la coopérative de Figeac. Nous allons maintenant nous intéresser à la ferme de Martory, qui, de par sa forte demande, a cherché à se diversifier pour répondre à cette forte demande, notamment en vente directe, en AMAP et en magasin bio, uniquement pour les produits de la diversification, à savoir la production de pommes ainsi que la production de volailles. À savoir que ce n'est pas la ferme de Martory qui a choisi d'être au sein d'une AMAP, mais l'AMAP qui les a choisis, pour ainsi répondre à une demande locale. L'AMAP cherchait des producteurs bio, d'où l'investissement de la ferme de Martory au sein de l'AMAP, et ils ont également adhéré à une deuxième AMAP il y a 5 ans, ce qui pour eux correspond exactement à leur philosophie et une approche propre à eux de leur commercialisation.
En plus d'être dans une AMAP, la ferme de Martory est assez soucieuse de son environnement. De ce fait, Sylvain, présent dans le GAEC et président de l'association Arbres et Paysages, avec qui il participe à l'accompagnement des plantations de haies auxquelles il a pu bénéficier sur son exploitation. Il adhère également à une CUMA pour le côté broyage du bois de ses haies qui permet de valoriser, notamment dans la litière pour ses vaches.
La ferme de Martory réalise également de la prestation de services, notamment grâce à la diversification au niveau du service jus de pomme, où ils réalisent principalement des pommes transformées ainsi que des jus et des cidres et vinaigre de pomme, ce qui plaît énormément aux clients. Ils ont également récemment travaillé avec la Maison de la Châtaigne lors de la Foire de la Châtaigne, où ils se sont occupés de la production de jus de pomme pour l'événement. Cette fois-ci, à une échelle plus locale, nous allons voir une autre forme d'organisation collective portée par un collectif d'environ 30 agriculteurs en système biologique et conventionnel, ainsi que le CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural d'Occitanie. Les agriculteurs travaillent avec le moulin de la Borie pour fabriquer la désormais bien connue farine de la Méjanette, initiative locale dans le but de préserver les céréales anciennes où cela traite seulement de petits volumes.
La coopérative Jeune Montagne est un bel exemple de réussite avec un prix payé à ses producteurs de lait qui dépasse les 550 euros les 1000 litres. Elle est un moteur de la Stastrict AOP Layol qui permet la bonne valorisation du lait. Cela est dû à l'orientation qualitative de ses produits, également dopée par la vente de l'Aligo à une clientèle renouvelée. C'est un bel exemple de valorisation des ressources locales. En effet, il s'agit de lait produit à base d'herbes pâturées à la belle saison et de foin en hiver. Stéphane Gérard, des fermes de Figeac, nous parle également de l'importance de la qualité des produits et sa vision de l'agroécologie. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente l'agroécologie pour toi ?
Alors pour ma part, la transition agroécologique, je pense qu'elle se fera aussi par l'assiette. C'est notamment parce que les consommateurs demanderont des produits plus sains, tracés, avec du sens, voilà, que du coup, en amont, les producteurs produiront de façon plus agroécologique.
Le travail collectif se fait à différentes échelles et sous différentes formes sur notre territoire et permet aux agriculteurs de collaborer et d'échanger sur des objectifs communs. Cependant, il y a un équilibre à trouver entre le travail collectif et le travail individuel pour que chaque agriculteur puisse rester maître de ses choix et dicter son indépendance.
Les labels sont un moyen de conserver et valoriser les pratiques traditionnelles agricoles. Ces outils sont également un moyen pour jouer sur l'impact environnemental des exploitations. Les filières structurées autour d'une appellation ou d'un label sont généralement soumises à un cahier des charges qui impose certaines pratiques agricoles. Et ce sont ces pratiques qui forment le paysage et l'environnement. Sur le plateau de l'Aubrac, la coopérative Jeune Montagne récolte le lait auprès des éleveurs de Simmental et d'Aubrac pour le transformer en fromage appellation d'origine protégée, l'Aïol. En structurant la filière avec des prix fixes et en encourageant les jeunes à s'installer, la coopérative a permis de conserver sur le territoire des pratiques traditionnelles d'élevage extensif, de pastoralisme et d'estive. À travers le cahier des charges, la coop encourage les éleveurs à valoriser l'herbe et ainsi à garder les milieux ouverts, à conserver une mosaïque d'habitats et des prairies-feries, favorisant une certaine biodiversité liée à ces espaces. Aujourd'hui, la menace climatique, la perte de biodiversité, l'arrivée de nouveaux ravageurs remet en cause la pérennité de ces collectifs. Écoutons Stéphanie Gerbal, responsable à la coopérative Jeune Montagne, nous expliquer quels sont les moyens mis en place pour anticiper ces risques.
Donc là, on essaye de trouver des partenaires qui peuvent nous aider dans tout ce qui va être prise de décision par rapport au changement climatique. On en est vraiment aux prémices parce que, bon, aujourd'hui, le but, c'est de faire prendre conscience à nos producteurs qu'on ne peut pas fermer les yeux et faire comme si rien n'allait se passer, que vraiment, le changement climatique, il est bien là, il est bien existant et que pour essayer de passer ce cap, il faut essayer de l'anticiper et de s'adapter. Alors s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, mettre de plus en plus en place des pâturages tournants pour essayer de favoriser la pousse de l'herbe. Donc ça demande une maîtrise technique, parce que déjà il y a un aménagement des pâturages à faire. On a déjà des producteurs qui s'intéressent au sujet, notamment Benoît Rosière, qui est producteur fermier également et qui a bien anticipé. Lui, il a commencé à mettre en place, même sur son exploitation, il a planté des vergers pour favoriser l'ombrage pour les animaux. Voilà. Donc il y a tout ça qui... C'est ces expériences-là qu'on va essayer de faire partager aussi à nos producteurs pour que tout le monde puisse éventuellement, ben, en tout cas, en toute connaissance de cause, puisse mettre en place ces systèmes-là s'ils le souhaitent sur leur exploitation.
L'agriculture biologique est aujourd'hui un des leviers pour répondre à la nécessaire transition agroécologique que doit opérer l'agriculture pour faire face aux enjeux environnementaux. Malgré la présence de deux éleveurs bio dans la coopérative Jeune Montagne, leur production ne peut être valorisée avec ce label. La COP devrait en effet mettre en place deux circuits de transformation séparés, un pour le conventionnel et un pour le bio. D'autres problématiques existent. Écoutons Sylvain, de la ferme de Martory, éleveur d'un troupeau allaitant en bio, nous parler de sa vision des coopératives.
La politique française du développement de la bio a été plutôt axée sur la certification de ferme, mais pas sur la promotion et la mise en place de filières. Du coup, on assiste aujourd'hui à un engorgement du marché du fait d'une surproduction en bio par rapport à la demande.
Écoutons maintenant le père de Sylvain, ex-éleveur, nous parler de sa vision de l'agroécologie.
Je pense que là, je l'approuve à 100% quand il replantait, parce que c'est aussi l'avenir de nos régions agricoles, surtout en élevage, et même en culture d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'agroécologie n'a jamais eu le vent autant en poupe, hein, et je crois que c'est... Il faudra à l'avenir en tenir compte. Notre planète ne pourra pas s'épuiser éternellement. Il faut trouver les solutions pour préserver nos réserves. Et je pense que l'agroécologie en fait partie.
Pour reprendre les mots du directeur de la coopérative Jeune Montagne, la tradition sans modernité peut être stérile, mais la modernité sans tradition peut être aveugle.
Aujourd'hui, je voulais vous parler de la méjanette. Derrière ce nom mystérieux se cache la farine du Cosméjan, une farine locale et de qualité créée par et pour les habitants. À l'origine du projet, une initiative de citoyens impliqués dans leur patrimoine qui ont souhaité rénover et remettre en service un ancien moulin à vent. C'est Michel Pralon, en grandissant à côté de l'édifice, qui a mobilisé les habitants autour de son rêve d'enfance en créant tout d'abord le collectif La Toile du Méjan. Je suis donc au moulin de la Borie, sur la commune de Hurlaparade, qui s'est elle aussi fortement impliquée dans le projet. « Ce qu'on entend derrière moi, c'est le bruit du mécanisme traditionnel du moulin, dont les ailes, de 14,20 m d'envergure, sont assez larges pour permettre au vent de le faire tourner. Bien sûr, comme l'objectif est aussi de produire de la farine, un moteur électrique a été ajouté au bâtiment. Je suis avec Alice, aujourd'hui agricultrice, et qui a accompagné le projet en tant qu'animatrice du CIVAM Occitanie, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, qui se trouve à Florac. Elle nous explique le rôle de la structure dans l'élaboration du projet.
Suite à l'idée de Michel et ce que disait Guillaume, l'idée d'en faire une filière, enfin de vraiment en faire un outil de production et pas seulement un outil patrimonial, là le collectif La Toile du Mégen s'est dit oula, ça prend de l'ampleur, on va peut-être devoir se faire accompagner parce que ça c'est conséquent quoi. Ça. Du coup, ils ont fait appel au CIVAM parce que voilà, c'est notre cœur de métier d'accompagner des démarches collectives comme celle-ci.
Et oui, avec toute la volonté du monde, il n'est pas toujours facile de fédérer des acteurs très différents autour d'un projet commun. Sous l'impulsion du CIVAM, une étude de faisabilité est lancée. Étonnamment, de nombreux acteurs de la filière et des habitants du territoire se mobilisent dès les premières réunions publiques. Pourtant, le projet de création de filières devenant plus technique, avec des questions de semences ou encore de panification, le lien avec le consommateur s'est perdu au grand regret d'Alice.
Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure, on a perdu le lien avec les habitants. Et ce qui était un peu dommage, en fait. Il y a des moments où on l'a regretté parce qu'il y avait eu quand même un gros travail de réunion publique, de vraiment les impliquer. Et puis finalement, on était tellement focus sur la filière. On a oublié aussi d'intégrer les consommateurs dans la filière. Alors que les consommateurs font partie de la filière. Ils auraient tout le long dû être impliqués en fait, dans toutes ces réflexions de cahier des charges, etc.
Alors, pour sensibiliser les habitants et les impliquer dans cette filière en devenir, il lui est venu une idée saugrenue. Les faire participer à la multiplication des semences de blé ancien directement dans leur jardin. Malheureusement, après une distribution de graines glanées dans différentes régions et à cause d'une année difficile, l'initiative n'a pas abouti. L'idée a ensuite été reprise par Thierry, le meunier ultra motivé du moulin de la Borie, qui souhaitait faire de la farine de maïs. Et là, c'est un succès, puisque l'on pourrait presque dire que cette variété du Causse est née dans le jardin de ses habitants. Changement de décor, puisque je suis maintenant à la Gourmandine, une boulangerie du centre de Florac.
Bonjour. Bonjour. Du baguette et un pain au chocolat, s'il vous plaît.
J'y rencontre Alain Julier, boulanger depuis 1996 et amoureux du Causse, qui me raconte pourquoi il s'est inséré dans la création de cette filière si particulière.
Donc moi je suis arrivé là, je trouvais l'idée très bonne, et en tant qu'enfant de pays je dirais, mais aussi en tant qu'artisan, et d'apporter une farine locale, qui plus est faite sur un vieux moulin avec une meule de pierre, donc c'était une autre qualité plus rustique de farine, et donc ça me parlait quoi. Ça me parlait pour, un, la qualité, deux, le côté local, et trois, les souvenirs d'enfance.
Aujourd'hui, Alain crée plusieurs pains à base de farine du Mégen. La baguette Méjanette et des pains qui sont tous deux au levain, des pains semi-complets à base de Méjanette bio, et un pain aux céréales à base de Méjanette complète bio. Il nous explique comment ce dernier produit est arrivé dans sa gamme.
Et ce pain-là, en fait, cette idée est venue de la diététicienne de Florac qui m'avait dit « Alain, il faut que tu me fasses un pain au levain sur farine bio avec des céréales bio. » Alors j'ai dit « Écoute, laisse-moi un peu de temps. » Et j'en ai parlé à Thierry et Thierry m'a dit « Écoute, je vais te fournir tout ça et puis tu feras des tests. » Puis les tests, il est concluant. Maintenant, on fait 10-15 kilos tous les dimanches.
On le voit, la Méjanette, ce n'est pas seulement une filière, c'est aussi un projet qui a fédéré de nombreux acteurs du territoire. D'ailleurs, c'est encore Alain qui en parle le mieux.
Il y a eu beaucoup de rencontres avec toute la population, hein. Que ce soit agriculteurs, meuniers, boulangers, les familles qui vivent sur le Causse et qui avaient à cœur aussi ce projet. Et donc ça a mené aussi pas mal de rencontres. Je n'ai pas assisté à toutes, mais c'est vrai que ça a été un grand élan en tout cas.
Avec l'implication des habitants, des agriculteurs et de tous les acteurs du territoire, la filière Méjanette est aujourd'hui un franc succès. Elle fait d'ailleurs des émules, puisque non seulement elle se vend en dehors de la Lozère, mais elle intéresse aussi des collectifs qui ont des projets similaires.
Nous voilà maintenant arrivés à la Maison de la Châtaigne, dans le petit village cantalien de Morgeoux, devenu célèbre pour sa foire qui depuis 1990 rassemble au moins 15 000 personnes venant de toute la France. C'est une fête qui a pour but de promouvoir la châtaignerie cantalienne. Fort de son succès, il a été décidé de créer un lieu rassemblant culture, histoire et tradition, la Maison de la Châtaigne.
Donc celle-ci a ouvert ses portes en 1999, c'est un écomusée où on retrouve des objets anciens, donc un séjour traditionnel appelé sécadou, un four à pain, une épicerie des années 50 reconstituée, mais également un verger, jardin potager. Dans cet écomusée sur la châtaigneraie cantalienne, il y a un point de vente conservé dans une ferme typique de la châtaigneraie pour y acheter des produits agroalimentaires et artisanaux. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Juliette, bénévole pour la Maison de la Châtaigne.
Quels sont les atouts d'un lieu comme la Maison de la Châtaigne sur le territoire ?
Alors, le territoire en question, c'est la châtaignerie cantalienne qui regroupe quatre communautés de communes et la Maison de la Châtaigne est l'écomusée de ce territoire et c'est surtout un atout touristique. Il y a un intérêt, disons, pour la revalorisation du châtaignier puisque depuis plusieurs années, nous faisons des stages de greffe au printemps, des stages de plantation à l'automne et nous accompagnons les producteurs. En particulier, il y a eu un accompagnement au moment de l'arrivée du parasite Synips. Notre salarié ici est allé poser le prédateur de ce Synips chez différents producteurs.
Par cet engouement territorial autour de la production de châtaignes, le développement d'une filière farine a vu le jour. Cette initiative locale part d'un projet commun entre la Maison de la Châtaigne et un collectif de 40 producteurs de châtaignes, dont 15 veulent produire leur farine à Morgeoux. À l'heure actuelle, 100 kg de farine par an ont été produits par le petit moulin de l'écomusée et un nouveau moulin devrait voir le jour à l'automne. Pour parler de cette filière, nous sommes allés voir un apiculteur diversifié en castagniculture qui produit du miel de châtaignier, de la confiture de châtaigne et du confit de fleurs de châtaignier. Cet agriculteur, qui se prénomme lui aussi Sylvain, est membre du collectif de producteurs Les Castagniers et souhaite lui aussi développer la filière de farine de châtaigne. Nous lui avons posé quelques questions.
Du coup Sylvain, est-ce que tu peux nous dire ce que peut apporter le développement de la filière farine sur le territoire ?
Le développement de la farine sur le territoire, il y a plusieurs niveaux de réflexion. C'est déjà d'apporter un nouveau produit sur le territoire, puisque c'est un produit qui se fait sur d'autres territoires, mais pas en châtaigneraie cantalienne. Donc ça peut être intéressant pour la clientèle d'avoir un produit plutôt local qu'un produit qui vienne d'un autre secteur. Ça va créer aussi des liens parce qu'on va travailler sur un collectif de producteurs, donc des liens de main d'œuvre, de connaissances, de reconnaissance. Voilà ce qui peut se faire d'intéressant autour de ce type d'atelier.
La commercialisation est aussi très importante dans la mise en place de la filière. À l'heure actuelle, les producteurs du collectif distribuent leurs produits en Biocoop ou en AMAP, et Sylvain fait aussi de la vente directe à la ferme et sur un marché. Pour la farine, une marque commune au collectif pourrait être choisie pour valoriser le produit au niveau du territoire. Sylvain nous parle ici de sa vision de la commercialisation, qui se fait plutôt pour lui en circuit court.
Comment envisagerais-tu la commercialisation en vente directe sur le territoire ?
En fait, le fait de travailler en vente directe, ça a des intérêts surtout pour faire comprendre aux consommateurs comment on travaille et en même temps valoriser plus facilement notre produit et de gagner un peu plus au niveau de la marge, de la marge de vente, puisque quand on vend en direct, on marge plus que quand on vend en magasin, quoi. Donc c'est vrai que l'intérêt, c'est surtout le lien avec le client qui m'intéresse, moi, derrière tout ça, quoi.
Le point commun que l'on peut retrouver sur les deux filières farine et châtaigne du Cantal, ce sont toutes les deux des initiatives qui émanent du territoire et qui font travailler des acteurs locaux avec une distribution en circuit court.
Ces initiatives locales permettent donc de redynamiser le territoire en rapprochant producteurs et consommateurs.
Pour clôturer cette émission, voici ce que nous retenons de ces échanges. Pas de mutation sans crise. C'est triste à entendre, mais ce sont les périodes de crise qui ont provoqué des mutations dans l'organisation du monde agricole, faisant émerger des initiatives locales. Et aussi, pas de dynamisme sans volonté. Les exemples de développement de coopératives ou d'associations naissent de la volonté de dynamiser un territoire, permettant de créer du lien entre agriculteurs, acteurs locaux, habitants, consommateurs, etc.
Pour illustrer les éléments marquants des thématiques de ce voyage, nous vous proposons d'écouter nos camarades. Mathis et Charlélie parleront tout d'abord des organisations collectives, Baptiste et Christelle présenteront ensuite les tenants et les aboutissants de la création de filières.
Les organisations collectives comme les coopératives, avec leur cahier des charges, structurent les filières en termes de commercialisation, de pratiques agricoles, et elles ont un véritable impact sur toutes les exploitations agricoles du territoire. Et c'est sur ces collectifs que l'on doit s'appuyer pour faire face aux enjeux de demain, pour garder les pratiques traditionnelles et surtout promouvoir des pratiques agroécologiques et durables.
Alors pour moi, les circuits longs et les circuits courts ne sont pas forcément antagonistes, ils peuvent même être complémentaires, au sens où ça permet à des producteurs d'avoir accès à des outils de transformation performants, et également le circuit long peut servir de tampon pour absorber les volumes de production.
Je trouve que la châtaigne et le développement de la filière farine sur le territoire cantalien a permis vraiment est vraiment vecteur du développement de la tradition dans le territoire. Et au-delà du point de vue économie, ça permet vraiment de redynamiser un territoire rural qui était en déprise aussi.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la création d'une filière comme ça, ça peut quand même s'avérer compliqué parce que ça fait intervenir énormément d'acteurs très différents. Et il ne faut surtout pas oublier de faire le lien avec les habitants parce que c'est très important qu'ils soient très impliqués là-dedans pour à la fois en tant que consommateurs, mais aussi comme pour investir leur territoire.
Dans le contexte actuel, le monde, et notamment le monde agricole, subissent de grands changements. La situation sanitaire, économique et les tendances sociales obligent les agriculteurs à s'adapter et parfois à changer leurs pratiques et les modes de valorisation de leurs produits.
De ces différents mouvements naissent des diversifications de production alimentaire, énergétique, sociale, environnementale, illustrant de manière concrète la multifonctionnalité de l'agriculture.
Les initiatives des acteurs locaux avec les coopératives ou les associations permettent d'ouvrir des perspectives d'innovation avec un développement de nouvelles filières et la création de liens entre consommateurs, producteurs et transformateurs. Ces nouvelles filières peuvent s'articuler avec des démarches de développement touristique et culturel, comme en témoignent les exemples de la rénovation du moulin de la Borie et la filière farine du Méjean, ou encore l'écomusée de Mourjoux et la filière farine de Châtaigne. Ces liens entre agriculteurs, acteurs locaux et territoires permettent aux exploitations d'être plus résilientes.
Le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui a poussé une majorité des producteurs vers une intensification de leurs pratiques en déconnectant l'agriculture de son territoire et une rupture de confiance entre producteurs et consommateurs. Face aux enjeux climatiques actuels et aux crises successives comme la crise des quotas laitiers, la crise de la vache folle ou encore la crise sanitaire, la notion de terroir reprend tout son sens. Valoriser les ressources locales du territoire, à savoir les ressources naturelles, mais également les ressources culturelles et humaines, tout en développant des filières et des circuits de proximité, voici selon nous le principal défi que l'agriculture de demain devra relever.
Pour cette expérience, les étudiants étaient encadrés par deux de leurs formatrices, Armelle Tourner et Claire Ergotte, avec l'appui technique de Marc Lansens, assistant de communication, et la joyeuse équipe de Radio Bartas, Ben de Paris, Corto Macherès, Véro Buquet. Merci pour votre écoute et à l'année prochaine.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin. sur la colline,
vivre seul dans une maison,
avec la vue,
j'ai ma raison.
Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur.
Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue, j'ai ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Un soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue, j'ai ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue, j'ai ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.